Donc, hier, Guillaume a posé une question. Il a demandé qui venait pour la première fois au Bals. Moi. Donc, Guillaume m'a proposé de présenter un sujet. Je me demandais bien ce que j'allais vous présenter. J'avais l'embarras du choix. Et je lui ai proposé, à ce moment-là, j'avais devant moi de présenter un sujet sur trois grâces. Vous oubliez complètement, on n'est pas du tout là-dessus. Entre-temps, j'ai changé complètement mon fusil d'épaule. Mais vous verrez qu'il est quand même sérieusement question de la grâce de Dieu. Je vous propose donc une courte approche d'un chapitre du livre du Lévitique. Vous m'arrêtez comme vous voulez. Ma présentation sera sur quatre points. D'abord, une introduction avec un court développement sur le livre du Lévitique. Et ensuite, on rentrera dans le chapitre. C'est bon pour tout le monde ? On commencera par une citation d'un autre. Le Lévitique est un livre fermé pour celui qui n'en possède pas la clé divine. Celle-ci est Jésus-Christ, que nous y trouvons sous tous les aspects de son sacrifice et de sa sacrificature. Le croyant possède un seul sacrifice offert une fois pour toutes, nous en donne et qui est pleinement suffisant. Mais pour le décrire sous ses différents aspects, l'Esprit de Dieu nous en donne des images variées et complémentaires. Une citation de Jean Quéclin que vous trouverez en introduction de Chaque jour les Écritures. Le Lévitique est un livre dans lequel on ne peut entrer que dans la mesure où la clé est Jésus-Christ comme le but, comme le moyen, mais aussi comme la finalité. Le Lévitique. Qu'est-ce que c'est que le Lévitique ? Je ne veux pas faire le savant, Lévitikos, qui veut dire relatif aux Juifs. On passe là-dessus sans s'attarder. Il doit son nom au terme de Lévite, prêtre issu de la tribu de Lévi. Il nous parle des devoirs sacerdotaux en Israël. Il met l'accent sur la sainteté de Dieu et le code selon lequel son peuple pouvait vivre en vue de s'approcher de lui. Son but est d'enseigner les principes moraux et les rituels religieux de la loi de Moïse dans le but 1. De s'approcher de Dieu. 2. De vivre avec Dieu. S'approcher de Dieu, vivre avec Dieu. Nous avons là les deux grandes parties du livre du Lévitique qui comprend 27 chapitres. Je passe volontairement vite dans le résumé et dans l'approche du livre. On pourrait rentrer dans beaucoup plus de détails, ce n'est pas mon sujet. Nous avons donc une première partie qui couvre les chapitres 1 à 10, à la louche, comment s'approcher de Dieu. Une deuxième partie, comment vivre avec Dieu. La première partie, nous allons la découper en deux. Une première partie qui nous parle des cinq sortes d'offrandes, qui sont l'holocauste, l'offrande de gâteau, le sacrifice de prospérité ou d'action de grâce, le sacrifice d'expiation, le sacrifice de culpabilité. J'en ai nommé cinq, je les cite. Une deuxième partie du chapitre 8, 9 et 10, qui est la consécration et la sainteté des sacrificateurs. Dans la deuxième partie, chapitre 11 à 16, nous avons le traitement de l'impureté et le remède qui y répond. Dans la dernière partie, la sainteté pratique. Et moi, je me propose de vous présenter le chapitre 25. Je passe volontairement vite sur ces choses. On parlera davantage du reste si vous le souhaitez. Le livre du Lévitique déploie deux grands principes divins qui vont toujours ensemble et qui nous concernent aujourd'hui en tant que rachetés. Tout ce qui a été écrit, rien n'a été enlevé. L'un est la grâce souveraine de Dieu, d'un Dieu qui donne sans justifier, sans raisonnement, parce qu'il est amour. Nous allons voir le développement, le déploiement de cette grâce dans le chapitre 25. Mais l'autre revers du sceau, c'est que le gouvernement de Dieu est là et qui constitue le sujet du chapitre 26. En effet, Si d'un côté, Dieu donne sans poser de conditions, et c'est le sujet du chapitre 25, nous verrons que d'un autre côté, il fait en sorte que chacun récolte ce qu'il aura semé. C'est-à-dire, en face d'un côté, j'ai la grâce d'un Dieu qui donne encore, qui bénit encore, parce qu'il ne sait faire que ça. D'un autre côté, il inclut notre propre responsabilité dans la façon dont nous allons recevoir cette grâce et comment nous allons agir en fonction de cette grâce. Le chapitre 25 du Lévitique nous présente deux sujets. Le premier étant l'année sabbatique, le deuxième, le jubilé. Je disais à Sébastien, qui était à Béziers il y a quelques semaines, c'est des sujets sur lesquels je n'ai jamais entendu présenter. Et deux ou trois jours après, une publication quotidienne abordait ce sujet d'une façon très réduite. Donc, je ne peux plus le dire à Sébastien. C'était la publication de Lueur du matin de Calzadan, je ne sais pas si vous connaissez. Nous trouvons au chapitre 25 l'institution de certaines années qui sont marquées d'un caractère particulier. Versets 1 à 7, l'année sabbatique. Les années du jubilé, versets 8 à 13 ans. Et la fin du chapitre qui nous montre leur mise en application. On y va. Première partie, l'année sabbatique. La deuxième partie étant donc la présentation du jubilé. La quatrième partie sera la conclusion et vos critiques. L'année sabbatique est nommée aussi année de relâche ou année de repos, ou relâche tout simplement. Hein. Selon les traductions, selon les versions, selon les auteurs, c'est l'un ou l'autre qui est employé. Mais on parle de la même chose. Je vous propose donc de faire la lecture des versets qui concernent l'année sabbatique. Et l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï, disant, parle aux fils d'Israël et dis-leur. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, le pays célébrera un sabbat à l'Éternel. Pendant 6 ans, tu sèmeras ton champ, pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne, tu en recueilleras le rapport. Et la 7e année, il y aura un sabbat de repos pour le pays, un sabbat consacré à l'Éternel. Tu ne sèmeras pas ton champ, tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui vient de soi-même de ta moisson précédente, tu ne vendangeras pas les grappes de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour le pays. Et le sabbat du pays vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur, à ta servante, à ton homme à gage, à ton hôte qui séjourne chez toi, et à ton bétail et aux animaux qui seront dans ton pays. Tout son rapport servira de nourriture. En tant que racheté du Seigneur, est-ce qu'il y a des croyants ici? Oui. Ah, il y en a un. Daniel, il n'est pas trop sûr, il y va doucement, mais il y en a un quand même. Bon, en tant que racheté du Seigneur, qu'est-ce que nous avons à faire dans notre vie chrétienne avec des choses qui sont aussi archaïques que ça, que l'année sabbatique et l'année du jubilé? Vous vous souvenez de la première diapo, il y a une clé pour entrer dans le Lévitique, cette clé est Jésus-Christ. Est-ce que nous avons quelque chose pour notre édification personnelle, que nous pouvons tirer de ces enseignements-là? Interrogation écrite, je ramasse les copies dans une heure. Ne rigolez pas. Nous trouvons 4 autres mentions de l'année de relâche. Et on va les voir, et vous allez voir pourquoi. La première, c'est Exode 21, la deuxième, Exode 23, Deutéronome 15, Deutéronome 31, pour 4 motifs différents. Et nous allons voir qu'en plus de celles que nous venons de lire, nous sommes en présence de 5 motifs pour lesquels la grâce de Dieu a voulu instituer une année de relâche, une année sabbatique, une année de repos. Est-ce que notre vie chrétienne va pouvoir s'appuyer sur ces choses? Est-ce que nous allons pouvoir, en tant que rachetés du Seigneur, trouver quelque chose qui nous correspond? C'est vous qui me le direz. Il est fait mention pour la première fois en Exode 21. Si tu achètes un serviteur hébreu, il te servira 6 années et la 7e, il sortira libre gratuitement. Le premier motif qui nous est donné, la libération des Hébreux qui s'étaient aliénés. Aliénés, c'est-à-dire qu'ils avaient cédé par aliénation, c'est-à-dire qu'ils avaient cédé et perdu leurs droits sur eux-mêmes ou sur leurs biens. C'est-à-dire, c'est des gens qui, en tant que juifs, avaient tout perdu. Pour X raisons, la situation était la terre. Était ainsi. Exode 21, la 7e année, il sortira libre. La deuxième mention est en Exode 23, les indigents de ton peuple en mangeront. Un indigent, c'est quelqu'un qui manque de toutes les choses les plus nécessaires à la vie. Ceux qui laisseront de reste, les bêtes des champs le mangeront. Le deuxième motif est la subsistance des indigents et bêtes des champs. Troisième mention en Deutéronome 15. Au bout de 7 ans, tu feras relâche, et c'est ici la manière du relâche. Tout créancier relâchera sa main du prêt qu'il aura fait à son prochain. Il ne l'exigera pas de son prochain ou de son frère, car on aura proclamé le relâche de l'Éternel. Troisième motif, la libération des dettes et des créances. La quatrième mention en Deutéronome 31, qui a été citée hier par Julien. Au bout de 7 ans, au temps fixé, dans l'année de relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra pour paraître devant l'Éternel, au lieu qu'il aura choisi, tu liras cette loi devant tout Israël à leurs oreilles. Quatrième motif, la lecture de la loi, pour nous la lecture de la parole de Dieu. Lévitique 25 ajoute un cinquième motif. Il y aura un sabbat de repos pour le pays, un sabbat consacré à l'Éternel. Ça sera une année de repos pour le pays.
Michel, oui. Le deuxième motif, c'est quoi ?
Je vais le citer, je reviens dessus. Cinquième motif, le repos pour le pays, ce qui renfermait l'idée de la participation au repos de Dieu. Telle était en résumé l'institution de l'année sabbatique, l'observation de laquelle de précieuses bénédictions étaient liées, la libération des esclaves, la subsistance des indigents, etc., deuxième motif, la libération des dettes et créances, la lecture de la loi, la participation au repos de Dieu. Est-ce que vous lisez sur fond rouge, c'est pas top ? Est-ce que ma vie chrétienne s'ancre dans ces cinq principes de vie ? Michel, est-ce que tu as été libéré d'un maître qui était extrêmement dur et cruel ? Tu étais esclave, est-ce qu'aujourd'hui tu es libéré ? Est-ce qu'à travers cette libération, tu as trouvé de quoi nourrir ton âme ? Est-ce que tu as été libéré des dettes et créances qui pesaient sur toi par les liens que tu pouvais avoir avant de connaître le Seigneur ? Est-ce que tu connais aujourd'hui l'intérêt de la lecture, de la méditation de la parole de Dieu ? Est-ce que tu connais aussi, sur cette base-là, le repos que donne la certitude de connaître Jésus comme son Sauveur, son Seigneur, son espérance, sa propre vie ? Chers frères et sœurs, est-ce qu'en tant que racheté du Seigneur, nous trouvons pour chacun de nous, et là personne ne regarde personne, est-ce que dans ma propre vie spirituelle, il y a un point sur lequel j'achoppe encore aujourd'hui ? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai été libéré ? Est-ce que je connais les ressources que me donne le Seigneur ? Est-ce qu'il y a encore des dettes et des créances que Satan pourrait revendiquer sur moi alors que j'appartiens à celui dont le sang a été répandu à la croix ? Est-ce que je peux rester des jours, des semaines ou pire, sans la lecture, nourrir mon âme par la lecture de la parole de Dieu ? Et est-ce que toutes ces choses me donnent d'entrer dans un repos que nous connaissons déjà aujourd'hui et qui sera le repos parfait, le repos final ? Chers frères et sœurs, est-ce que j'ai perdu mon temps en vous présentant à travers l'année sabbatique ces 5 éléments ? Ça ne vient pas de moi, celui qui l'a écrit, je le connais comme mon père et je peux l'appeler papa. Ça va pour tout le monde ? Il y en a une qui suit. La foi du peuple était récompensée, qu'il était beau de voir la promesse de Dieu se réaliser chaque 6e année, de sorte qu'alors la terre rapportait pour 3 ans. Elle a rapporté pour cette sixième année elle-même, pour la septième où l'on ne semait ni ne recueillait, pour la huitième année où l'on ne moissonnait pas, puisqu'on n'avait pas semé la septième année, mais où l'on semait et où l'on commençait à récolter seulement la neuvième année. Et pour clarifier un petit peu cela, voilà ce que je vous propose. Lévitique 25 présente la question des semailles et des récoltes. Tout ça, ça paraît un petit peu abstrait, on va rentrer dans le détail. Sixième année, septième année, huitième année, neuvième année, ou première année, deuxième année du cycle suivant, mais la parole les cite huitième et neuvième. La septième année, qui est donc une année sabbatique. Cette année-là, repos. Est-ce qu'on se met la sixième année ? Oui. Est-ce qu'on se met la septième année ? Non. Est-ce qu'on se met la huitième année ? Oui. La neuvième ? Oui. Est-ce qu'il y avait une récolte la sixième année ? Triple. Triple. Et il faut bien se dire que sur la promesse de Dieu, Dieu donnait d'abord trois récoltes, une récolte triple, avant que l'obéissance du peuple soit manifestée en quoi que ce soit. Dieu donne d'abord. Dieu donne d'abord. Est-ce qu'il y avait, on avait semé la sixième année ? Est-ce qu'il y avait une récolte la septième ? Oui. Mais est-ce qu'on y touchait ? Non. Cette récolte restait sur pied. Il y avait une récolte qui émanait de la semence de la sixième année. Septième année, on ne touche pas. Et pour les motifs qu'on a vus, ça sera pour l'étranger, pour le pauvre, pour les bêtes, pour ceci, pour cela, pour machin. On n'a pas semé la septième année. Il n'y a pas de récolte la huitième. On a semé la huitième, donc il y a une récolte la neuvième. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Vous voulez qu'on recommence ça ? Donc, il faut bien se dire une chose, c'est que sixième année, on avait les récoltes de trois ans. Est-ce que le peuple célébrait l'année sabbatique ou pas ? Des fois oui, des fois non. Et quand on n'a pas célébré l'année sabbatique, est-ce qu'il y a eu une conséquence sur un jugement de Dieu ? On va le voir aussi. Et si vous dites, que mangerons-nous la septième année ? Voici, nous ne semons pas, nous ne recueillons pas nos produits. Je commanderai que ma bénédiction soit sur vous en la sixième année. Et elle donnera le produit de trois ans. Et vous sèmerez la huitième année, vous mangerez du vieux produit jusqu'à la neuvième, jusqu'à ce que son produit soit venu, vous mangerez le vieux. Verset 21, je commanderai que ma bénédiction soit sur vous. À retenir. Quand l'Éternel commande et promet, au verset 21, je commanderai que ma bénédiction soit sur vous, que répond ma foi. J'ai la récolte triple dans mon grenier, elle y est, j'ai la preuve de la fidélité de Dieu, Dieu a commandé, Dieu a fait, Dieu a promis, Dieu a donné, qu'est-ce que j'en fais et comment j'agis devant cette preuve de la fidélité de Dieu ? Question, que répond ma foi ? Je me suis trompé de bouton. La question, elle est là. Et ça, c'est... Ça se passe entre Dieu et moi, je dirais même entre moi et Dieu. Personne ne peut répondre pour personne. Quel admirable spectacle devait présenter ce peuple tant qu'il eut assez de foi pour obéir à cette loi de son Dieu. Il était beau de voir tout un peuple ayant assez de confiance en son Dieu pour laisser le sol sans culture, et se trouva néanmoins abondamment nourri. Il y a quelque chose que j'ai laissé volontairement de côté, c'est que la promesse de Dieu était que pendant cette année de relâche, personne ne viendra contre vous. Vos ennemis, je m'en occuperai, personne ne viendra contre vous, mais c'était un peu à la marge de mon sujet. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? il faut plus de foi pour atteindre la délivrance sans rien faire que pour agir. Qui abonde ? Est-ce que c'est naturel pour nous de rester sans rien faire et d'attendre que Dieu agisse ? C'était pas dans mes chromosomes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? La foi honore Dieu. Et est-ce que vous êtes aussi d'accord avec ça ? Que Dieu honore la foi ? Il ne reste jamais notre débiteur. Imaginez les bénédictions qu'aurait reçues le jeune homme riche. À Marc, quand le Seigneur lui dit « Vends tout ce que tu as et viens, suis-moi », et trois ou quatre versets après, il y a les disciples qui disent « Ouais, mais nous avons tout laissé, nous t'avons suivi », et le Seigneur leur dit « Vous recevrez au centuple ». On ne sait pas ce que devient ce brave garçon. Il avait toutes les qualités moins une. Imaginez les bénédictions dont il s'est privé, parce qu'un jour, il a regardé à ses richesses plus qu'à la foi que lui demandait le Seigneur. Là, nous avions un peuple qui, dans son grenier, avait la récolte triple. Est-ce que j'obéis au commandement de Dieu ou est-ce que j'obéis pas ? Et ça, il y a l'aspect collectif, c'est une chose, mais ce n'est jamais le reflet que de nos aspects individuels. Mais, et vous savez que dans la parole, quand un verset commence comme ça, en général, oulala, ça va faire mal. Le peuple ne tient pas compte, du moins pas longtemps, de ses bénédictions. Il ne tarda pas à transgresser cette ordonnance, comme les autres ordonnances de Dieu d'ailleurs. Il méprisa, profana bientôt les sabbats d'année et attira sur lui les jugements de Dieu qui le met en garde. Et qui le met en garde parce que Dieu parle toujours avant de nous dire quelque chose. Nous lisons. Et si avec cela vous ne m'écoutez pas et que vous ne marchez, que vous marchiez en opposition avec moi. Vous voyez la proposition « marcher en opposition avec Dieu », ce que ça représente dans nos vies. Hein. C'est-à-dire chaque fois que Dieu dit ça, mais moi je pense ça et j'agis en fonction de ce qui me plaît. « Je vous disperserai parmi les nations, je tirerai l'épée après vous et votre pays sera mis en désolation. Alors le pays jouira de ses sabbats tous les jours de sa désolation. Quand vous, vous serez dans le pays de vos ennemis, alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Tous les jours qu'il sera désolé, il se reposera parce qu'il ne s'était pas reposé dans vos sabbats pendant que vous y habitiez. » C'est la fin de Lévitique 26. Est-ce que ça s'est réalisé dans l'histoire du peuple ? Mais alors, vous imaginez pas comment, et on va y jeter un coup d'œil. Il est hors de doute que le mépris du repos de la septième année fut une des iniquités parmi d'autres des Juifs qui amenèrent les 70 ans de captivité à Babylone. Ce sur quoi je veux attirer l'attention, ce n'est pas la captivité, c'est ça. Pourquoi 70 ans ? La loi nous donne-t-elle un motif à la durée de 70 ans du jugement de Dieu envers le peuple d'Israël par l'ignorance ou le mépris d'un commandement précis ? Et c'est pour le motif suivant, afin que fût accomplie la parole de l'Éternel dite par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays jouît de ses sabbats. Tous les jours de sa désolation, il se reposa, jusqu'à ce que 70 ans fussent accomplis. Chers frères et sœurs, comment est-ce que nous approchons, comment est-ce que nous appréhendons la parole de Dieu ? Si c'est la parole d'un homme qui s'appelle Pierre, Jacques, Jean ou comme vous voudrez ou quelque autre que ce soit, c'est une chose. Si c'est Dieu qui nous parle à travers un instrument choisi par lui, comment est-ce que j'agis en fonction de cette parole-là ? Et quand nous sommes exhortés à la sainteté, comme nous allons le voir tout particulièrement dans la deuxième partie sur le jubilé, vous vous souvenez ce par quoi on a commencé ? C'est que Dieu donne sans condition. Mais en fonction de ce qu'il nous donne, notre responsabilité est engagée. C'est la fin de 2 Chroniques 26. L'Éternel a compté toutes les années de repos dont le pays a été privé par l'incrédulité du peuple. par 70 fois, le peuple a profité de la fidélité de Dieu, la récolte triple, sans l'honorer en retour par sa propre fidélité. Je prends la récolte triple et l'année suivante, je sème, j'ai gagné ça, tant pis, on obéira une autre fois. Dans notre vie chrétienne, personne n'agit comme ça parmi nous, jamais. Le problème, c'est que Dieu nous promet une bénédiction, mais parce que nous sommes ses enfants, que nous sommes des fils et des filles et que nous ne sommes pas des bâtards, il nous demande quelque chose qui est très difficile à la nature humaine, qui s'appelle l'obéissance, et il y a un motif à cette obéissance, ça s'appelle l'amour. Et dans la mesure où je vais laisser mon cœur sourire sur cet amour que le Seigneur nous a révélé, non pas comme un principe abstrait, mais dont nous avons toutes les preuves à la croix du calvaire, comment est-ce que je vais engager ma propre vie devant ce que le Seigneur me demande ? 7 fois 70 ans, 490 ans de patience, soit environ, à la louche, les deux tiers de l'intervalle de temps entre l'entrée en Canaan et la déportation à Babylone. Dire qu'il n'y a jamais eu d'année sabbatique, c'est faux. Dire qu'il y a toujours l'année sabbatique, c'est faux aussi. Ce n'était pas seulement l'affaire de quelques individus en Israël, c'était l'ensemble du peuple qui est toujours pris en compte par Dieu. Nous avons donc, ce qui est extrêmement solennel, une année de déportation à Babylone par année de repos sabbatique négligé. Dieu tel les comptes, j'ai béni une année pour une année. Et les comptes de Dieu sont rigoureusement exacts. Et je suis persuadé que quand nous allons, ça engage que moi, mais quand nous allons passer devant le grand tribunal de Christ, où on n'a pas affaire à un juge puisque c'est notre sauveur, mais il va prendre le détail de toutes nos vies, où il va nous dire, par exemple, tel jour tu étais au bals, tel jour tu as partagé avec un tel, avec une telle, qu'est-ce que tu as fait pour moi ? Est-ce que tu étais content de te vanter ? Est-ce que tu étais content de ceci, de cela ? Où étaient tes motivations ? Parce que Dieu ne reste jamais sur les effets, il remonte toujours sur les causes. Et c'est terrible ça, parce qu'en plus, rien n'est caché devant lui. Il connaît toutes les motivations de mon cœur. Il sait la colère terrible que hier j'ai montrée contre Guillaume, parce que j'apprends que j'ai une heure, je l'ai détesté pendant au moins bien 2 secondes et demie. Bon, mais après j'ai continué à t'aimer, mon frère. C'est vous dire si l'Esprit de Dieu agit en nous. Hein. Et vous rigolez. Je vous propose une deuxième partie, le jubilé, où est-ce que vous voulez qu'on pose 5 minutes. On embraye, me dit le patron. Le mot jubilé vient du latin jubilare, se réjouir. C'est ce mot que Jérôme a utilisé pour traduire en hébreu yobel, c'est le Strong 3104, dans la traduction de la Vulgate, qui a deux sens. Le premier, c'est bélier, corne de bélier, par extension trompette retentissante, ou année du jubilé marquée par le son des trompettes. Voici ce qui concerne le jubilé. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 ans. Au cas où on ne comprendrait pas, le Seigneur prend la peine de nous expliquer de quoi il s'agit. Et les jours de ces 7 sabbats d'année te feront 49 ans. Et au 7e mois, le 10e jour du mois, tu feras passer le son bruyant de la trompette. Le jour des propitiations, vous ferez passer la trompette par tout votre pays. Et vous sanctifierez l'année de l'an 50e et vous publierez la liberté dans le pays à tous ses habitants. Ce sera pour vous un jubilé. Vous retournerez chacun dans sa possession, vous retournerez chacun dans sa famille. Cette année de l'an 50e sera pour vous un jubilé. Et vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce qui vient de soi-même, vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est le jubilé, il vous sera saint, vous mangerez en y prenant ce que le champ rapportera. C'est la version d'Harvey, hein, mais pas uniquement. Le jubilé était basé sur la propitiation. Il était en rapport immédiat avec le grand jour des propitiations de Lévitique 16 et semble avoir été la plus émouvante et la plus réjouissante des cérémonies juives. On va revenir sur ces choses. Qu'est-ce que c'est que la propitiation ? La propitiation, c'est l'action de se rendre Dieu propice, favorable, en vue d'obtenir l'expiation, c'est-à-dire le pardon des péchés. Et la fête des propitiations chez les Hébreux était donc une solennité toute particulière, une fête d'une solennité particulière. C'était donc le rituel du dixième jour du septième mois. C'est quand le sang de la victime avait été répandu que le son de la trompette du jubilé se faisait entendre dans tout le pays annonçant l'affranchissement. Et nous allons voir que l'année sabbatique et le jubilé sont complémentaires. Chaque septième année est une année sabbatique. Et au bout de 7 fois 7 ans, il y avait un jubilé. Chacune des années solennelles antiques représentait à la fois la perspective bénie d'un temps où le travail et la peine cesseraient. Là, on n'est pas du tout, mais alors pas du tout du tout, sur ce que l'Église catholique appelle le jubilé. On oublie, hein. Ni sur le jubilé du règne de la reine d'Angleterre, ni sur ces trucs-là. Hein. Repos sabbatique tous les 7 ans. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mon tableau. Il y a donc 49 ans, l'arrivée de l'année 50e ici. Tous les 7 ans, nous avons une année sabbatique. C'est clair pour tout le monde. Eh oui, c'est un petit peu clair, le fond est... Et c'est agréable de regarder travailler les autres. Hein. Ouais, mais je ne joue pas dans la trompette. Et nous avons ici donc l'an 50e. Comme toujours, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il en est question ailleurs dans la parole ? On est en plein dans le sujet en Ésaïe 61. Qui nous dit : L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Parce que l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux débonnaires. Droit de cœur. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui mènent deuil. Ésaïe 61. Caractère propre à ce prophète. Voyons que Dieu accomplira les prescriptions du jubilé. Je vous le lis. Ésaïe prophétise que ce que prescrivait le jubilé sera accompli par une intervention de Dieu. Ça sera une intervention décisive, définitive, appelée l'année de la faveur de l'Éternel. J'entrerai pas dans l'aspect prophétique de ces choses, ou an de grâce de l'Éternel. Pendant l'année de grâce, ça ne sera pas la loi, mais Dieu lui-même qui restituera à ceux qui sont sous le joug de l'indigence leur dignité personnelle et sociale. On entre dans le détail de ce que ça veut dire. Un petit peu plus loin. Du point de vue des évangiles, on ne trouve pas de référence explicite au jubilé de Lévitique 25 dans le Nouveau Testament. Mais avant que vous grogniez, j'ajoute tout de suite, mais nous y trouvons une citation textuelle et partielle de la prophétie messianique de Ésaïe 61 et dans la bouche même du Seigneur au tout commencement de son ministère. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus lit Ésaïe 61 et l'attribue à sa personne et à son œuvre. Qu'est-ce que tu nous dis, Michel ? C'est-à-dire qu'on ne peut entrer dans la compréhension du but poursuivi par Dieu concernant le jubilé qu'à travers la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus. Dans la citation de Luc 4, il y a une partie qui manque, c'est le jour de la vengeance de notre Dieu. Le Seigneur n'était pas venu pour exiger la vengeance de Dieu, ce jour viendra. Il est venu pour apporter la grâce et pour apporter la délivrance à tous ceux qui étaient esclaves, ceux qui étaient dans des liens. Le texte lu par Jésus indique qu'il a été envoyé pour évangéliser les pauvres, les bénéficiaires du jubilé. 1 Timothée 3 nous dit que le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, etc., etc. Il a été prêché aux nations, il a été annoncé aux pauvres. Pour remettre en liberté les opprimés, qui est une autre disposition fondamentale du jubilé. Où est-ce que j'en étais avant ma conversion ? J'étais où ? Est-ce que j'étais là, dans les pauvres ? Est-ce que j'étais dans un opprimé? Est-ce que j'étais un opprimé? Et est-ce que la subtilité satanique qui aujourd'hui gouverne ce monde, on n'a jamais autant parlé de liberté et on n'a jamais vu autant de gens qui ont affaire à des médiums, à des tireurs de cartes, à des choses qui sont inutiles au mieux, mais qui ouvrent la porte à des puissances derrière lesquelles est-ce qu'il y a? Et on ne trouve ça nulle part dans la parole. Aujourd'hui, moi je peux vous parler de mon environnement immédiat, j'ai plusieurs voisins qui nous ont proposé un tas de choses, ma femme a eu une brûlure très grave il y a quelques années, on va arrêter le feu, merci, je préfère souffrir. Qu'est-ce qui est là derrière? Je ne veux pas le savoir. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a eu des sujets de prière, qu'on a assisté quasiment en direct à des miracles qui nous ont montré que là on n'avait pas besoin d'un voisin, qui d'ailleurs est mort dans des souffrances et dans des angoisses épouvantables. Voilà. C'est en Jésus que s'accomplit cette prophétie. Jésus annonçait en outre que les destinataires de la grâce de Dieu ne seront pas uniquement les Hébreux, heureusement pour nous, mais l'humanité entière, les disciples recevront la tâche d'annoncer l'évangile à tous les peuples. Matthieu 28. Et c'est l'ordre de mission que nous retrouvons au début, premier chapitre du livre des Actes. En Jésus, on reçoit les dispositions essentielles qui étaient celles du jubilé, à savoir le rachat des propriétés cédées et garanties par Jésus-Christ qui rend même participants de ses richesses insondables ceux qui croient en lui. Et non seulement nous sommes libérés, mais nous sommes introduits comme héritiers de son règne glorieux. Est-ce que nous réalisons aujourd'hui exactement ce que ça sera que d'être héritiers, co-héritiers de Jésus? Moi, je suis convaincu que quand nous allons arriver là-haut et que nous allons voir ce que le Seigneur a choisi de quitter pour venir sur une terre où il s'est confronté à toutes les conséquences du péché dans l'homme et où il a dû payer sur la croix le prix de mon pardon, de mon rachat, je ne sais pas le vôtre, mais je sais ce que lui a coûté le mien, je me dis que je serai qu'encore plus dans l'adoration en voyant « Seigneur, mais tu as fait ça pour moi, tu as fait ça pour moi ». D'autre part, la libération des esclaves du jubilé est opérée par Christ, qui libère les croyants de l'esclavage du péché, libérera aussi la création des conséquences du péché. L'année du jubilé prescrite par Lévitique 25, ou l'année de grâce mentionnée par Ésaïe, s'est accomplie aujourd'hui. C'est le « aujourd'hui » du verset 21 de Luc 4, avec la venue du Messie. Ce n'est donc pas quelque chose qui reste à accomplir en partie, mais c'est quelque chose que le Seigneur lui-même a affirmé aujourd'hui. Nous savons la réaction, on l'a chassé. Première activité du Seigneur public, on a cherché à le tuer. On comprend que la suite de son ministère ne pouvait que le conduire là où il a fini. Jésus-Christ proclame la venue de l'an de grâce du Seigneur. Il en est la réalisation, il en est l'accomplissement, il en est aussi l'exécution. Jésus est la clé du Lévitique. Le jubilé, la terre d'Israël, nous avons ici de traits caractéristiques de la terre de l'Éternel. Il voulait qu'elle jouît d'une année sabbatique tous les 7 ans, et dans cette année, il devait y avoir une preuve de la riche profusion dont Dieu bénirait ceux qui en étaient les bénéficiaires. Quel honneur de dépendre immédiatement de l'Éternel. On est loin de tous les systèmes cléricaux que se sont inventés les hommes dans l'Église de Dieu. On pouvait dire de bon droit, bienheureux le peuple pour qui il en est ainsi, bienheureux le peuple qui a l'Éternel pour son Dieu. Chers frères et sœurs, est-ce que nous pouvons dire bienheureux l'Église qui a le Seigneur, pour son Sauveur? Bienheureux. Bien souvent, on s'arrête plus sur les taches, les rides de l'Église, qui ont marqué toute l'histoire, son histoire. Mais est-ce que ça ne nous cacherait pas justement ce qui est la chose essentielle? Est-ce que je connais ce bonheur dans ma vie pratique de tous les jours de connaître Jésus comme mon Sauveur? Mon Sauveur. Ah, là, j'en ai sauté plusieurs. Mais écoutez, tant pis. Nous avons donc ici la trait caractéristique de l'Éternel. Il voulait, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, il voulait qu'elle jouît d'une année sabbatique, Dans cette année, il devait y avoir une riche profusion dont l'Éternel bénéficierait. Quel bonheur de dépendre immédiatement de lui. Pas de loyer, pas d'impôt, pas de taxes, pas d'intérêt bancaire. Tout ça, la liberté complète et la liberté sur la terre que le Seigneur, sur laquelle avait promis sa bénédiction et qui était la terre de l'Éternel. Nous le verrons un petit peu plus loin. Nous savons hélas que les Israélites faillirent en ne prenant pas une entière possession de ce pays dont l'Éternel leur avait fait présent. Il leur avait donné tout entier, il leur avait donné pour toujours. Ils n'en prirent qu'une partie, et cela pour un temps. Toutefois, il est toujours là, ce pays-là. La propriété est là, quoique les tenanciers en soient rejetés pour le moment. Le pays ne se vendra pas à perpétuité, le pays est à moi. Le pays est à moi. Et nous comprenons, car vous êtes chez moi comme des étrangers et comme des hôtes. Et nous comprenons pourquoi. Comment un petit pays qui est grand grosso modo comme le Languedoc-Roussillon, qui a à peu près le même nombre de populations, dans les 5,5 millions, 6 millions de personnes, fait l'actualité mondiale tous les jours. Nous avons des dizaines et des dizaines de pays sur la face de notre planète dont on n'entend même pas parler. Par exemple, les îles Féroé, il a fallu que j'aille regarder où c'était. C'est peut-être pas aussi grand. Je savais que c'était quelque part au nord. Je suis allé vérifier. La terre d'Israël, aujourd'hui, est tous les jours au centre de l'actualité divine. Et pour peu que vous suiviez un petit peu ce qui se passe, on voit qu'est en train de se mettre tout autour de ce pays un ensemble de puissances qui ne sont pas capables de s'entendre entre eux, mais qui ont un point commun, c'est que quand il s'agit de tomber sur Israël, alors là, c'est la cohésion complète. Israël est donc un pays qui, un jour, chose unique dans l'histoire des nations, sera un peuple qui sera seul, qui n'aura aucun allié. Tous les amis auront rompu leurs alliances, un peuple qui sera seul. Cela veut dire que Canaan appartient tout spécialement à l'Éternel et je ne crois pas qu'il ait brûlé son titre de propriété, bien au contraire, et qu'il veut que les tribus d'Israël l'occupent pour lui et avec lui. On ne verra peut-être pas toutes ces choses se réaliser. On sait qu'il y a un gros travail qui se fait aujourd'hui dans la diaspora. Je suis un peu curieux de ces choses et je peux vous dire qu'aujourd'hui le troisième temple est prêt. On a retrouvé les petites bêtes, des colonies des petites bêtes qui servaient à faire le bleu dans lequel était utilisé pour le vêtement des sacrificateurs. On a retrouvé la composition exacte de l'huile de l'onction. On a retrouvé, et qui sont élevés aujourd'hui, plusieurs génisses rousses qui sont absolument indispensables à la purification du temple et des sacrificateurs. Tout est en place. Les instruments, ils savent parfaitement où est l'original de l'arche et de tous les instruments du temple. Il ne manque aujourd'hui qu'une chose, peut-être que nous aurons le privilège de le voir, le déclic, le feu vert de Dieu. Ces choses sont prêtes. Et je vous invite à chercher, avec les réserves d'usage, tout ce qui est publié aujourd'hui dans des sites juifs ou messianiques concernant le troisième temple. Chers frères et sœurs, nous sommes à la veille du grand jubilé. Nous attendons que sonne cette trompette qui va proclamer quoi ? Notre délivrance. Mais qu'il va y avoir un enclenchement d'événements qui vont être la preuve que Dieu n'a pas abandonné son peuple. Et que ce que j'ai écrit ici, c'est que les tribus d'Israël, dans leur intégrité, dans leur complémentarité, doivent l'occuper pour lui et par lui. Nous avons le privilège de vivre sûrement cette génération qui va voir le retour du Seigneur. Et ce qui était l'espérance de l'Église depuis le commencement, est-ce que ça sera aujourd'hui ? Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Mais est-ce que c'est notre espérance ? Et quand je me suis attaché à commencer cette publication, c'est exactement ce qui était devant moi. Où est-ce que nous en sommes, chacun de nous, en face de la pensée du retour du Seigneur ? Est-ce que nous en faisons une pensée doctrinale, un principe chrétien parmi d'autres ? Est-ce que je le vis et est-ce que je règle mes affaires et ma vie en fonction de « je viens bientôt » On va y revenir un petit peu plus loin. L'Épître aux Hébreux nous montre en divers endroits Jésus comme la grande réalité des institutions lévitiques, l'ombre devenant réalité. Vous connaissez cette citation d'Hébreux 10. Elle nous le montre en particulier réalisant d'une manière parfaite les actes du souverain sacrificateur juif dans le jour des propitiations, qui, comme toute la parole prophétique, rendait d'avance témoignage des souffrances du Christ et des gloires qui suivraient. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, nous allons le voir. Le jour des propitiations, ou dixième jour du septième mois, c'était un statut perpétuel à célébrer chaque année afin de faire propitiation pour les fils d'Israël, pour les purifier de tous leurs péchés. Ceci sera pour vous un statut perpétuel au septième mois, le dixième jour du mois, car en ce jour-là, il sera fait propitiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purs de tous vos péchés devant l'Éternel, et sauf erreur, je crois que ce verset est quasiment unique dans la parole. Il y a un jour où le peuple pouvait dire « Je peux me présenter devant Dieu » parce que là-bas dans le désert, il y a un bouc, le bouc Azazel, le bouc envoyé qui a porté les péchés du peuple. Aujourd'hui, j'ai cette liberté d'entrer dans la présence de Dieu pour répondre à cette relation que lui-même a choisie et a désirée. Chers frères et sœurs, ce qui pour eux était à renouveler tous les ans, pour nous, l'Épître aux Hébreux nous démontre avec une clarté toute particulière qu'il a accompli ces choses une fois pour toutes. Le dixième, septième mois était tout particulièrement le mois des sabbats et des fêtes. Au premier jour, il y avait un repos, c'était la fête des trompettes, Rok HaKalnas al-Hashanim, qui veut dire au commencement des fêtes civiles. Le dixième jour était le grand jour des propitiations, c'était un sabbat solennel d'affliction, appelé aussi jour du grand pardon, Yom Kippour. Au quinzième jour commençait la fête des tabernacles ou des tentes, Sukkot, qui durait 8 jours. Premier et huitième jour étaient donc des jours de repos. Plus qu'aucune autre, cette fête préfigurait le repos final du peuple de Dieu. Après ces sabbats de jour et de mois, venait le sabbat d'année où Dieu prescrivait le repos de la terre qui lui appartient. On va voir un petit peu tout à l'heure comment s'organiser ces mois-là. Vous allez voir que c'est super intéressant. Bon, moi, ça m'a plu. Le jour de l'ouverture du jubilé était clairement indiqué au verset 9, au septième mois, le dixième jour du mois, le jour des propitiations. Le jour du jubilé, ce n'est pas nous qui le choisissons comme nous en avons envie. Ce n'est pas le rabbin truc ou le rabbin muche qui va choisir quelque chose, c'est tel jour qu'à la fin de la journée, ou grand jour des expiations, Lévitique 16. L'une des fêtes les plus solennelles de l'année, ce jour où tout Israélite, sous peine retranchée, devait affliger son âme. C'était un jour de deuil, d'humiliation, de larmes pour tout le peuple, choisi par l'Éternel comme le premier jour de l'année de la liberté, de grâce et de joie. Je suis désolé que ça apparaisse si peu. Lévitique 16 nous présente « Tu affligeras ton âme sous peine de ». Et c'est cette même date qui nous est présentée comme l'ouverture de la liberté et ce que nous y trouvons, la grâce et la joie. Les sacrifices offerts par Aaron dans le jour des expiations, son entrée dans le lieu très saint avec l'encens et le sang, son intervention devant le propitiatoire en faveur du peuple, voilà ce que Jésus a pleinement réalisé. Et là, on retrouve Hébreux 10, on avait l'ombre, en Christ, nous avons la pleine réalité. À quoi nous pouvons ajouter que, comme Aaron devait après ces choses changer ses vêtements de lin contre ses magnifiques vêtements qui lui étaient affectés pour gloire et pour ornement, notre céleste Aaron a de même revêtu un corps glorifié, et maintenant, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Et les citations qui vont bien avec. Et c'est très intéressant, je vous invite à le suivre, à voir tous les actes en Lévitique 16 de ce qu'accomplissait le sacrificateur. Parce qu'avant qu'on en soit là, il y avait tout un cérémonial, il y avait tout ce qui devait être fait, et aucune étape ne devait être estompée, on ne pouvait sauter aucune étape sous peine de nullité complète. Le grand but de Dieu, c'est qu'un jour il y ait un homme qui sorte avec des vêtements de gloire et qui puisse établir, c'est le jour de la liberté, aujourd'hui vous êtes pur, aujourd'hui vous pouvez vous approcher de Dieu, aujourd'hui vous êtes dans une pleine liberté, Mais ça, c'était valable ce jour-là, le lendemain. Les actes du souverain sacrificateur dans le jour des expiations mettent sous nos yeux, de la manière la plus frappante, l'œuvre parfaite de Jésus. Seule source pour son peuple de tout pardon, de toute grâce, de tout affranchissement, et par conséquent de toute joie vraiment digne de ce nom. Est-ce que nous réalisons ça? Chers frères et sœurs, pour nous, le salut est gratuit, absolument gratuit. Mais pour lui, alors je me permets de rajouter ça, pour toi, Jésus, la souffrance, les pleurs, la mort, l'abandon, pour nous.
Jésus, la souffrance, les pleurs, la mort, l'abandon, et pour nous la délivrance, le salut et le pardon.
Vous voyez, moi je suis toujours bouleversé, j'ai les larmes aux yeux quand je lis ça là. Pour toi, Jésus, pour moi, pour nous. Pour toi, pour nous. Salut est gratuit pour nous, mais pour lui. Et je crois que plus on entre dans la contemplation de ce qu'ont été les souffrances de la croix, ce que notre Seigneur Jésus a enduré pour le chacun de salut de l'humanité, c'est très vague, pour mon propre salut. Comment est-ce que je reçois ces choses, Seigneur? Qu'est-ce que je t'apporte en retour? Il ne reste donc à accomplir que le dernier acte d'Aaron dans le jour des expiations, c'est-à-dire qu'il faut encore que notre grand souverain sacrificateur sorte glorieux du sanctuaire pour bénir le peuple. Il faut que le Christ, tu as vu, le Christ, hein, qui a été offert une seule fois pour porter sur lui les péchés d'un grand nombre de pécheurs, soit vu une seconde fois sans péché, pour ceux qui l'attendent. Jusque-là, l'antitype du jubilé n'est réalisé qu'en partie. Avec l'année du jubilé, avec le jubilé, l'année civile commençait le 10e jour du 7e mois de l'année religieuse. Et on va rentrer dans le détail de ces choses pour que ce soit bien clair pour nous. Comprenant la deuxième moitié de la 49e année et la première moitié de la 50e, ne criez pas, on va y revenir. Ne nécessitait pas 2 ans de repos de la terre. Durant le jubilé, le peuple ne semait pas, parce que les semailles auraient dû se faire au 9e mois de l'année sabbatique. Mais c'était l'année sabbatique, donc on ne semait pas. On ne moissonnait ni on ne vendangeait, parce qu'on n'avait ni semé ni taillé la vigne l'année précédente. On va revenir sur ces choses, c'est un peu abstrait. Mais le jubilé finissait au 9e jour du 7e mois de l'année religieuse suivante. On pouvait cette même année commencer les travaux de l'agriculture. Pendant 6 ans, ils ont maintenu l'ordre de Dieu. Pendant 6 ans, tu sèmeras ton champ. Pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne. Qu'est-ce que ça veut nous dire? On va le regarder plus en détail. Nous avons la 49e année. Vous êtes d'accord avec moi? Elle compte 12 mois. La 49e année qui commence au mois de Nisan, selon Exode 12, verset 2. Et si vous voulez être précis, cette année, l'année juive, premier Nisan de 5720, a commencé le 16 mars 2019 dans la diaspora occidentale. Visiblement, ce n'est pas la même date partout, mais là, je ne maîtrise pas. Hein. On est bien d'accord. Cette année, qui n'est pas une année sabbatique d'ailleurs, l'année, le commencement de l'année, a bien eu lieu. Hop, attendez, voilà. On en est là, voilà. Le mois de Nisan, qui est le commencement de l'année religieuse. Mais la 49e année était une année sabbatique, c'est pour ça que je l'ai présentée comme ça. A commencé le 16 mars. Le 7e mois, qu'est-ce qui se passait? C'était le mois de Tishri, le 10e jour. J'ai arrondi au mois, je n'ai pas fait de détails dans les 30 jours. Hein. Nous avons quelque chose qui commençait la 49e année, le 10e jour du 7e mois, qui ça s'appelle le jubilé, qui allait jusqu'à la première année du cycle 49 ans suivant, jusqu'au 6e mois. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Nous avons donc 2 choses qui se chevauchent partiellement, d'un semestre chacun, qui est, il y a l'année religieuse qui maintenait son cycle, tous les 49 ans on part au cycle suivant, plus exactement tous les 7 ans on commence un cycle suivant, et l'année du jubilé qui venait non pas s'intercaler entre deux années religieuses ici, mais qui venait se juxtaposer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette année-là, on n'avait pas semé, on n'avait pas moissonné. On aurait dû commencer à semer par ici. On ne moissonnait pas, on ne moissonnait pas. Par contre, ce qui se passait, c'est que durant toute cette période-là, on profitait de la récolte triple de la, 48e année qui était ici. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Donc, il faut bien se dire qu'il y avait une 50e année qui ne venait pas entre la 49e et la 51e ou la première du cycle suivant, mais qui venait se juxtaposer. C'est-à-dire que l'année civile se venait se placer au-dessus de l'année religieuse. Et c'est pour ça qu'au 10e jour du 7e mois, nous avions donc toutes ces fêtes. Alors, si vous trouvez une explication, je suis preneur, parce que je n'en ai pas trouvé. Pourquoi Dieu, j'ai un tas de questions qu'on lui posait quand on arrivera là-haut, hein, je vous dis, pourquoi est-ce que ces choses partaient ici et ne partaient pas là? Parce qu'au 7e mois, Dieu avait dit, ça sera le 10e jour du 7e mois que sera jour des propitiations ou des expiations, et c'est sur cette base-là que le jubilé devait être prononcé. Et on va voir les conséquences que ça avait pour certains nombres de personnes. Quelles étaient les bénédictions attachées au jubilé? Je crois que je vais avoir mal de pour m'arrêter à 10 heures. Il me manque une dizaine de diapos à peu près.
Non, mais vas-y, c'est très bien.
Oh, je t'aime, Richard, je t'aime. On peut les résumer ainsi. Nous avions d'abord la remise des dettes, l'affranchissement des esclaves, le recouvrement des propriétés aliénées et le rétablissement de toutes choses, les provisions abondantes pour les pauvres et le repos de la terre. Or, il se trouve que là-dedans, on retrouve beaucoup de points communs avec l'année sabbatique qui avait lieu tous les 7 ans. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est que la 50e année, si vous me permettez l'expression, Dieu passait une deuxième couche. En leur disant, la 7e année, vous auriez dû faire ça. La 7e fois 7e année, où est-ce que vous en êtes? Voilà ce que va proclamer le jubilé. Et il y a une notion toute particulière qui est liée au jubilé et qu'on ne voit pas dans l'année sabbatique, et on va le regarder ensemble. Quels étaient les bénéficiaires? Je suis désolé, c'est vraiment très clair. Hein. Quels étaient en Israël les individus que réjouissait le plus le son de la trompette annonçant le commencement de l'année sabbatique du Seigneur, l'an agréable du Seigneur? Évidemment, c'était les pauvres, les infortunés, les débiteurs insoldables. On était là, nous, avant notre conversion. Hein. Et ça, je crois qu'on a besoin de nous souvenir que cette catégorie, ça ne concernait pas que les Juifs. C'était ceux qui aussi, dans leur misère, avaient dû se vendre à leurs frères, dont ils étaient devenus des esclaves. On y était là aussi. Ceux qui avaient été expropriés de leur maison et de leurs biens. Et là, on touche au fondement même de ce que représentait le jubilé. La restitution de tous les biens aliénés. Et ça, c'est propre au jubilé. Quelle joie ne devait pas leur causer le son de la trompette qui leur annonçait la délivrance. C'est aux pauvres aussi que la bonne nouvelle est prêchée. Ce sont les malheureux pécheurs perdus, enfants de colère par nature. Ma femme m'a dit que l'expression « enfants de colère » faisait un peu dater. Ben moi, elle est dans ma Bible, je l'ai laissée, que Jésus est venu chercher et sauver. M'excuserez, mais moi, j'étais là. Hein. Moi, j'étais là. Et Jésus n'est pas venu chercher un saint, à condition qu'il le soit un jour, mais il est venu chercher un pécheur qui était perdu. L'Église de Jésus-Christ se recrute peu à peu comme l'armée de David. Vous connaissez le passage de Samuel 22, « Tout homme qui était dans la détresse, tout homme qui était dans les dettes, tout homme qui avait de l'amertume dans l'âme s'assembla vers David et il fut leur chef. C'était un beau jour pour les malheureux chargés de dettes que celui où résonnait dans tout le pays la trompette de jubilation. C'était pour eux comme une quittance générale que Dieu leur donnait. Le matin, ils étaient des débiteurs insolvables. Le soir, ils ne devaient plus rien. Leur dette était payée, elle était remise. Souvent, nous avons ce travers de demander à Dieu pardon pour des choses. Ça fait des années qu'on lui demande de pardon. Et moi, je suis là-haut, certain qu'il doit dire, je ne sais pas pourquoi il me prie, celui-là. Si j'ai pardonné, il me parle de quoi ? Le matin, débiteur insolvable. Le soir, il ne devait plus rien. La dette est payée et remise. Est-ce que tous ici, nous sommes passés par là ? La deuxième catégorie, le jubilé ouvrait encore une source de joie à une autre classe de malheureux, ceux qui par excès de misère s'étaient vus dans la dure nécessité de se vendre à leurs frères ou à l'étranger. J'ai laissé volontairement de côté, j'en dirai rien, la question de la vente des maisons qui étaient murées, la vente des maisons des biens des Lévites, c'est pas le sujet. Mais ça se trouve bien dans le chapitre. La parole nous dit, quand ton frère sera devenu pauvre auprès de toi et qu'il sera vendu à toi, il te servira jusqu'à l'année du jubilé. Alors, le gras et le soulignement est de moi, il sortira de chez toi avec ses enfants, il s'en retournera dans sa famille. Dieu ne voulait pas qu'un Israélite fût traité comme un esclave par un autre Israélite, ni qu'un étranger dominât durement sur un fils d'Abraham. Et là, je vous une parenthèse qui est tout à fait personnelle. Je pense qu'un jour, il y a des nations qui répondront devant Dieu de ça. Qu'est-ce que tu as fait à mon peuple ? Il y a pour exemple que quand Dieu a utilisé Babylone comme bâton de sa colère, et c'était la volonté de Dieu contre son peuple, il lui redemandera des comptes pour la façon dont il a puni ce peuple-là. Et ce n'était pas ce que Dieu lui avait demandé. De plus, il y avait un droit de rachat pour l'esclave au cas où un de ses proches parents put le racheter ou que lui-même n'eut les moyens. Car, dit l'Éternel, ils sont mes serviteurs que j'ai retirés du pays d'Égypte. C'est pourquoi ils ne seront point vendus comme on vend les esclaves. Ils ne seront point vendus comme on vend les esclaves. Et là, nous avons pour moi un motif essentiel de la chute de l'Empire romain qui s'est servi du peuple juif qui avait sûrement attiré sur lui des jugements de Dieu, où le peuple juif, après l'an 70, le prix du cours des esclaves avait tellement dégringolé, il y avait tellement d'esclaves sur le marché, que je suis convaincu que pour moi, c'est un des motifs de la chute de l'Empire romain. Et Dieu laisse toujours du temps. Quels étaient d'autres bénéficiaires ? Une troisième classe d'infortunés, dont la trompette de jubilation réjouissait les cœurs, se composait de tous ceux que la pauvreté avait contrainte de vendre leur maison et leur terre. Dès que le jubilé commençait, ils rentraient de plein droit en possession de leur propriété aliénée. Ce vous sera l'année du jubilé et vous retournerez chacun en sa possession, chacun en sa famille. Quel bonheur pour ces pauvres dépossédés! Ils peuvent aller avec assurance aux créanciers qui leur ont succédé dans la jouissance de leur chambre ou de leur demeure et leur dire « C'est assez, ces biens nous appartiennent de nouveau, la trompette l'a proclamé, Dieu l'a dit. » Quelle joie pour eux qui recouvrent ainsi gratuitement tout ce qu'ils avaient perdu. Aujourd'hui, je vais quand même faire un petit focus là-dessus, Israël en attente du jubilé. L'arc de triomphe érigé à Rome pour célébrer la victoire de Titus sur les Juifs subsiste encore, redisant l'opprobre d'Israël jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. En témoignage de quoi ? Sont gravées sur ce trophée les principales dépouilles enlevées par le vainqueur au temple de Jérusalem. Cette photo, vous la trouverez partout sur Internet. Et qu'est-ce que nous voyons ? Le chandelier d'or. Alors pour le lire, hein, le chandelier d'or qui représentait jadis Israël comme lumière au milieu des nations. Deuxième point, nous avons ici la table des pains de proposition. C'est à peu près illisible. Dépouillée de ses pains, vu que les 12 tribus qui se figuraient sont dispersées. Et la troisième chose que nous avons ici, je ne sais pas si vous le voyez, moi je ne vois rien, c'est les deux trompettes d'argent dont on se servait pour annoncer le jubilé. Ces trois choses-là, aujourd'hui, Israël ne les a plus. Ni physiquement, ni matériellement, ni spirituellement. Non, Israël n'est pas le témoignage rendu comme lumière aux yeux des nations, c'est l'Église. Il n'y a plus cette unité d'Israël qui est un Israël dispersé. L'unité est manifestée par le seul pain que nous avons rompu hier. Et il n'y a pas les trompettes qui proclament la délivrance. C'est à l'Église de prononcer aujourd'hui et de proclamer « Jésus revient bientôt ». Enfin, bientôt, grâce à l'œuvre expiatoire de Christ, nous serons revêtus d'un corps glorifié, introduit par lui selon sa promesse dans la maison du Père où il y a de nombreuses demeures, avec cette affirmation catégorique « Je vais vous préparer une place quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. » Je reviendrai. Voilà ce que proclame Antipe pour nous le jubilé. Et la conséquence de ce retour, nous l'avons ici, je vous prendrai auprès de moi afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Chers frères et sœurs, c'est où dans nos cœurs ça? On l'a là, c'est très bien. On peut citer toutes les références. Mais là, est-ce que ma vie manifeste? Et d'abord devant mes frères et sœurs, et plus près encore, dans mon couple, dans ma famille, quelqu'un qui attend le Seigneur. Toute gloire appartient à Jésus, mais nous sommes par adoption et rédemption devenus ses co-héritiers. Il a dit au Père, la gloire que tu m'as donnée, moi je la leur ai donnée. Et quand on sonde un petit peu ces paroles du Seigneur en Jean 17, on se dit, Seigneur, mais il va aller à la croix, et de quoi il parle à son Père? De se racheter. Les très grandes et précieuses promesses s'accompliront pour nous au retour du Seigneur. Alors les saints qui sont endormis en lui ressusciteront à sa voix et nous, les vivants qui y restons, nous serons enlevés ensemble avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. Chose remarquable, de la même manière que le jubilé était introduit par le son de la trompette, c'est au son de la trompette de Dieu, car la trompette sonnera, nous dit 1 Corinthiens 15, que les morts en Christ se réveilleront incorruptibles et que nous nous serons transmués en un instant, en un clin d'œil. J'ajoute cette exhortation de Jésus lui-même en faveur de notre responsabilité de garder la promesse du retour du Seigneur et par conséquent l'attente du vrai jubilé. Et il nous dit, je viens bientôt, oui, je viens bientôt. Ma dernière diapo. D'un même cœur, ô Dieu, tes bien-aimés chantent ta gloire et ton amour suprême. Tous tes conseils sont la fermeté même et tes desseins ne varieront jamais. Le jour est proche, ô Dieu de vérité, où terre et ciel fuiront devant ta face, mais tout est saint. Monuments de ta grâce subsisteront durant l'éternité. Le jour est proche, ô viens, Seigneur Jésus, viens consommer le salut dans la gloire, viens engloutir la mort par ta victoire et dans le ciel rassembler tes élus.
Ô Dieu, tes bien-aimés. Seigneur, viens qu'au sauveur.